La petite sirène. Hans Christian Andersen. Partie 2 sur 2. On ne peut se faire une idée sur la terre d'une pareille magnificence. La grande salle de danse tout entière n'était que de cristal. Des milliers de coquillages énormes, rangés de chaque côté, éclairaient la salle d'une lumière bleuâtre qui, à travers les murs transparents, illuminait aussi la mer au dehors. On y voyait nager d'innombrables poissons, grands et petits, couverts d'écailles luisantes comme de la pourpre, de l'or et de l'argent. Au milieu de la salle coulait une large rivière sur laquelle dansaient les dauphins et les sirènes au son de leur propre voix, qui était superbe. La petite sirène fut celle qui chanta le mieux et on l'applaudit si fort que pendant un instant, la satisfaction lui fit oublier les merveilles de la terre. Mais bientôt, elle reprit ses anciens chagrins. Pensant au beau prince et à son âme immortelle. Elle quitta le champ et les rires, sortit tout doucement du château et s'assit dans son petit jardin. Là, elle entendit le son des cors qui pénétraient l'eau. Le voilà qui passe, celui que j'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, celui qui occupe toutes mes pensées, à qui je voudrais confier le bonheur de ma vie. Je risquerais tout pour lui et pour gagner une âme immortelle. Pendant que mes sœurs dansent dans le château de mon père, je vais aller trouver la sorcière de la mer que j'ai tant eue en horreur jusqu'à ce jour. Elle pourra peut-être me donner des conseils et me venir en aide. Et la petite sirène, sortant de son jardin, se dirigea vers les tourbillons mugissants derrière lesquels demeurait la sorcière. Jamais elle n'avait suivi ce chemin, pas une fleur, ni un brin d'herbe n'y poussait. Le fond, de sable gris et nu, s'étendait jusqu'à l'endroit où l'eau, comme des meules de moulin, tournait rapidement sur elle-même, engloutissant tout ce qu'elle pouvait attraper. La princesse se vit obligée de traverser ces terribles tourbillons pour arriver au domaine de la sorcière, dont la maison s'élevait au milieu d'une forêt étrange. Tous les arbres et tous les buissons n'étaient que des polypes, moitié animaux, moitié plantes, pareils à des serpents à 100 têtes sortant de terre. Les branches étaient des bras longs et gluants, terminés par des doigts en forme de verre et qui remuaient continuellement. Ses bras s'enlaçaient sur tout ce qu'il pouvait saisir et ne le lâchaient plus. La petite sirène, prise de frayeur, aurait voulu s'en retourner. Mais en pensant au prince et à l'âme de l'homme, elle s'arma de tout son courage. Elle s'attacha autour de sa tête sa longue chevelure flottante, pour que les polypes ne pussent la saisir, croisa ses bras sur sa poitrine et nagea ainsi, rapide comme un poisson, parmi ces vilaines créatures dont chacune serrait comme avec des liens de fer quelque chose entre ses bras, soit des squelettes blancs de naufragés, soit des rames, soit des caisses ou des carcasses d'animaux. Pour comble d'effroi, la princesse en vit une qui enlaçait une petite sirène étouffée. Enfin, elle arriva à une grande place dans la forêt où de gros serpents de mer se roulaient en montrant leur hideux ventre jaunâtre. Au milieu de cette place se trouvait la maison de la sorcière, construite avec les os des naufragés et où la sorcière, assise sur une grosse pierre, donnait à manger un crapaud dans sa main, comme les hommes font manger du sucre aux petits canaris. Elle appelait les affreux serpents ses petits poulets, et se plaisait à les faire rouler sur sa grosse poitrine spongieuse. « Je sais ce que tu veux !» s'écria-t-elle en apercevant la princesse. « Tes désirs sont stupides. Néanmoins, je m'y prêterai, car je sais qu'ils te porteront malheur. Tu veux te débarrasser de ta queue de poisson et la remplacer par deux de ces pièces avec lesquelles marchent les hommes, afin que le prince s'amourage de toi, t'épouse et te donne une âme immortelle. » À ces mots, elle éclata d'un rire épouvantable qui fit tomber à terre le crapaud et les serpents. « Enfin, tu as bien fait de venir. Demain, au lever du soleil, c'eût été trop tard. Et il t'aurait fallu attendre encore une année. Je vais te préparer un élixir que tu emporteras à terre avant le point du jour. Assieds-toi sur la côte et bois-le. Aussitôt, ta queue se rétrécira et se partagera en ce que les hommes appellent de belles jambes. Mais je te préviens que cela te fera souffrir comme si l'on te coupait avec une épée tranchante. Tout le monde admirera ta beauté. Tu conserveras ta marche légère et gracieuse, mais chacun de tes pas te causera autant de douleur que si tu marchais sur des points d'épingle et fera couler ton sang. Si tu veux endurer toutes ces souffrances, je consens à t'aider. Je les supporterai, dit la sirène d'une voix tremblante, en pensant au prince et à l'âme immortelle. Mais souviens-toi, continua la sorcière, qu'une fois changé en être humain, jamais tu ne pourras redevenir sirène. Jamais tu ne reverras le château de ton père. Et si le prince, oubliant son père et sa mère, ne s'attache pas à toi de tout son cœur et de toute son âme, ou s'il ne veut pas faire bénir votre union par un prêtre, tu n'auras jamais une âme immortelle. Le jour où il épousera une autre femme, ton cœur se brisera et tu ne seras plus qu'un peu d'écume sur la cime des vagues. « J'y consens, » dit la princesse, pâle comme la mort. « En ce cas, » poursuivit la sorcière, « il faut aussi que tu me payes. Et je ne demande pas peu de choses. Ta voix est la plus belle parmi celles du fond de la mer. Tu penses avec elle enchanter le prince, mais c'est précisément ta voix que j'exige en paiement. Je veux ce que tu as de plus beau en échange de mon précieux élixir, car pour le rendre bien efficace, je dois y verser mon propre sang. Mais si tu prends ma voix, demanda la petite sirène, que me restera-t-il? Ta charmante figure, répondit la sorcière, ta marche légère et gracieuse et tes yeux expressifs, cela suffit pour entortiller le cœur d'un homme. Allons, du courage, tire ta langue que je la coupe. Puis je te donnerai l'élixir. Soit, répondit la princesse, et la sorcière lui coupa la langue. La pauvre enfant resta muette. Là-dessus, la sorcière mit son chaudron sur le feu pour faire bouillir la boisson magique. « La propreté est une bonne chose, » dit-elle en prenant un paquet de vipères pour nettoyer le chaudron. Puis, se faisant une entaille dans la poitrine, elle laissa couler son sang noir dans le chaudron. Une vapeur épaisse en sortit, formant des figures bizarres, affreuses. À chaque instant, la vieille ajoutait un nouvel ingrédient. Et lorsque le mélange bouillit à gros bouillons, il rendit un son pareil au gémissement du crocodile. L'élixir, une fois préparé, ressemblait à de l'eau claire. « Le voici !» dit la sorcière, après l'avoir versé dans une fiole. « Si les polypes voulaient te saisir, quand tu t'en retourneras par ma forêt, tu n'as qu'à leur jeter une goutte de cette boisson et ils éclateront en mille morceaux. » Ce conseil était inutile, car les polypes, en apercevant l'élixir qui luisait dans la main de la princesse comme une étoile, reculèrent effrayés devant elle. Ainsi, elle traversa la forêt et les tourbillons mugissants. Quand elle arriva au château de son père, les lumières de la grande salle de danse étaient éteintes. Tout le monde dormait sans doute, mais elle n'osa pas entrer. Elle ne pouvait plus leur parler, et bientôt elle allait les quitter pour jamais. Il lui semblait que son cœur se brisait de chagrin. Elle se glissa ensuite dans le jardin, cueillit une fleur de chaque parterre de ses sœurs, envoya du bout des doigts 1000 baisers au château et monta à la surface de la mer. Le soleil ne s'était pas encore levé lorsqu'elle vit le château du prince. Elle s'assit sur la côte et but l'élixir. Ce fut comme si une épée affilée lui traversait le corps. Elle s'évanouit et resta comme morte. Le soleil brillait déjà sur la mer lorsqu'elle se réveilla, éprouvant une douleur cuisante. Mais en face d'elle était le beau prince qui attachait sur elle ses yeux noirs. La petite sirène baissa les siens et alors elle vit que sa queue de poisson avait disparu et que deux jambes blanches et gracieuses la remplaçaient. Le prince lui demanda qui elle était et d'où elle venait. Elle le regarda d'un air doux et affligé, sans pouvoir dire un mot. Puis, le jeune homme la prit par la main et la conduisit au château. Chaque pas, comme avait dit la sorcière, lui causait des douleurs atroces. Cependant, au bras du prince, elle monta l'escalier de marbre, légère comme une bulle de savon, et tout le monde admira sa marche gracieuse. On la revêtit de soie et de mousseline sans pouvoir assez admirer sa beauté, mais elle restait toujours muette. Des esclaves habillés de soie et d'or chantaient devant le prince les exploits de ses ancêtres. Elle chantait bien, et le prince les applaudissait en souriant à la jeune fille. « S'il savait, pensa-t-elle, que j'ai pour lui, que pour lui, j'ai sacrifié une voix plus belle encore. » Après le chant, les esclaves exécutèrent une danse gracieuse au son d'une musique charmante. Mais lorsque la petite sirène se mit à danser, élevant ses bras blancs et se tenant sur la pointe des pieds, sans toucher presque le plancher, tandis que ses yeux parlaient au cœur mieux que le chant des esclaves, tous furent ravis en extase. Le prince s'écria qu'elle ne le quitterait jamais et lui permit de dormir à sa porte sur un coussin de velours. Tout le monde ignorait les souffrances qu'elle avait endurées en dansant. Le lendemain, le prince lui donna un costume d'Amazone pour qu'elle le suivît à cheval. Ils traversèrent ainsi les forêts parfumées et gravirent les hautes montagnes. La princesse, tout en riant, sentait saigner ses pieds. La nuit, lorsque les autres dormaient, elle descendit secrètement l'escalier de marbre et se rendit à la côte pour rafraîchir ses pieds brûlants dans l'eau froide de la mer. Et le souvenir de sa patrie revint à son esprit. Une nuit, elle aperçut ses sœurs se tenant par la main. Elles chantaient si tristement en nageant que la petite sirène ne put s'empêcher de leur faire signe. L'ayant reconnue, elles lui racontèrent combien elle leur avait causé de chagrin. Toutes les nuits, elles revinrent, et une fois, elles amenèrent aussi la vieille grand-mère, qui depuis nombre d'années n'avait pas mis la tête hors de l'eau, et le roi de la mer avec sa couronne de corail. Tous les deux étendirent leurs mains vers leur fille, mais ils n'osèrent pas, comme ses sœurs, s'approcher de la côte. Tous les jours, le prince l'aimait de plus en plus. Mais il l'aimait comme on aime une enfant bonne et gentille sans avoir l'idée d'en faire sa femme. Cependant, pour qu'elle eût une âme immortelle et qu'elle ne devînt pas un jour un peu d'écume, il fallait que le prince épousât la sirène. « Ne m'aimes-tu pas mieux que toutes les autres ?» Voilà ce que semblaient dire les yeux de la pauvre petite lorsque, la prenant dans ses bras, il déposait un baiser sur son beau front. « Certainement, répondit le prince, car tu as meilleur cœur que toutes les autres. Tu m'es plus dévouée et tu ressembles à une jeune fille que j'ai vue un jour, mais que sans doute je ne reverrai jamais. Me trouvant sur un navire qui fit naufrage, je fus poussée à terre par les vagues près d'un couvent habité par plusieurs jeunes filles. La plus jeune d'entre elles me trouva sur la côte et me sauva la vie, mais je ne la vis que deux fois. Jamais dans le monde je ne pourrai aimer une autre qu'elle. Eh bien, tu lui ressembles. Quelquefois même tu remplaces son image dans mon âme. » Hélas, pensa la petite sirène. Il ignore que c'est moi qui l'ai porté à travers les flots jusqu'au couvent pour le sauver. Il en aime une autre. Cependant, cette jeune fille est enfermée dans un couvent, elle ne sort jamais. Peut-être l'oubliera-t-il pour moi qui l'aimerais, lui serait dévouée toute ma vie. « Le prince va épouser la charmante fille du roi voisin, » dit-on un jour. « Il équipe un superbe navire sous prétexte de rendre seulement visite au roi, mais la vérité est qu'il va épouser sa fille. » Cela fit sourire la sirène, qui savait mieux que personne les pensées du prince, car il lui avait dit « Puisque mes parents l'exigent, j'irai voir la belle princesse, mais jamais ils ne me forceront à la ramener pour en faire ma femme. » Je ne puis l'aimer. Elle ne ressemble pas, comme toi, à la jeune fille du couvent et je préférerais t'épouser, toi, pauvre enfant trouvé, aux yeux si expressifs malgré ton éternel silence. » Le prince partit. En parlant ainsi, il avait déposé un baiser sur sa longue chevelure. « J'espère que tu ne crains pas la mer, mon enfant. » lui dit-il sur le navire qui les emportait. Puis, il lui parla des tempêtes et de la mer en fureur, des étranges poissons et de tout ce que les plongeurs trouvent au fond des eaux. Ses discours la faisaient sourire car elle connaissait le fond de la mer mieux que personne, assurément. Au clair de la lune, lorsque les autres dormaient, assises sur le bord du vaisseau, elle plongeait ses regards dans la transparence de l'eau et croyait apercevoir le château de son père et sa vieille grand-mère, les yeux fixés sur la carène. Une nuit, ses sœurs lui apparurent. Elle la regardait tristement et se tordait les mains. La petite les appela par des signes et s'efforça de leur faire entendre que tout allait bien. Mais au même instant, le mousse s'approcha. Et elles disparurent en laissant croire au petit marin qu'il n'avait vu que l'écume de la mer. Le lendemain, le navire entra dans le port de la ville où résidait le roi voisin. Toutes les cloches sonnèrent, la musique retentit du haut des tours et les soldats se rangèrent sous leurs drapeaux flottants. Tous les jours, ce n'était que fêtes, bals, soirées. mais la princesse n'était pas encore arrivée du couvent où elle avait reçu une brillante éducation. La petite sirène était bien curieuse de voir sa beauté. Elle eut enfin cette satisfaction. Elle dut reconnaître que jamais elle n'avait vu une si belle figure, une peau si blanche et de grands yeux noirs si séduisants. « C'est toi ?» s'écria le prince en l'apercevant. « C'est toi qui m'as sauvé la vie sur la côte !» Et il serra dans ses bras sa fiancée rougissante. « C'est trop de bonheur » continua-t-il en se tournant vers la petite sirène. « Mes vœux les plus ardents sont accomplis. Tu partageras ma félicité car tu m'aimes mieux que tous les autres. » L'enfant de la mer baisa la main du prince, bien qu'elle se sentît le cœur brisé. Le jour de la noce de celui qu'elle aimait, elle devait mourir et se changer en écume. La joie régnait partout. Des héros annoncèrent les fiançailles dans toutes les rues au son des trompettes. Dans la grande église, une huile parfumée brûlait dans des lampes d'argent, les prêtres agitaient les encensoirs, les deux fiancères se donnèrent la main et reçurent la bénédiction de l'évêque. Habillée de soie et d'or, la petite sirène assistait à la cérémonie, mais elle ne pensait qu'à sa mort prochaine et à tout ce qu'elle avait perdu dans ce monde. Le même soir, les deux jeunes époux s'embarquèrent au bruit des salves d'artillerie. Tous les pavillons flottaient. Au milieu du vaisseau se dressait une tente royale d'or et de pourpre, où l'on avait préparé un magnifique lit de repos. Les voiles s'enflèrent et le vaisseau glissa légèrement sur la mer limpide. À l'approche de la nuit, on alluma des lampes de diverses couleurs et les marins se mirent à danser joyeusement sur le pont. La petite sirène se rappela alors la soirée où, pour la première fois, elle avait vu le monde des hommes. Elle se mêla à la danse, légère comme une hirondelle, et elle se fit admirer comme un être surhumain. Mais il est impossible d'exprimer ce qui se passait dans son cœur. Au milieu de la danse, elle pensait à celui pour qui elle avait quitté sa famille et sa patrie, sacrifié sa voix merveilleuse et subi des tourments inouïs. Cette nuit était la dernière, où elle respirait le même air que lui, où elle pouvait regarder la mer profonde et le ciel étoilé. Une nuit éternelle, une nuit sans rêve l'attendait, puisqu'elle n'avait pas une âme immortelle. Jusqu'à minuit, la joie et la gaieté régnèrent autour d'elle. Elle-même riait et dansait, la mort dans le cœur. Enfin, le prince et la princesse se retirèrent dans leur tente. Tout devint silencieux et le pilote resta seul debout devant le gouvernail. La petite sirène, appuyée sur ses bras blancs au bord du navire, regardait vers l'orient, du côté de l'aurore. Elle savait que le premier rayon du soleil allait la tuer. Soudain, ses sœurs sortirent de la mer, aussi pâles qu'elles-mêmes. Leurs longues chevelures ne flottait plus au vent, on l'avait coupé. « Nous l'avons donné à la sorcière, » dirent-elles, « pour qu'elle te vienne en aide et te sauve de la mort. Elle nous a donné un couteau bien affilé que voici. Avant le lever du soleil, il faut que tu l'enfonces dans le cœur du prince. Et lorsque son sang encore chaud tombera sur tes pieds, ils se joindront et se changeront en une queue de poisson. Tu redeviendras sirène, tu pourras redescendre dans l'eau près de nous. Et ce n'est qu'à l'âge de 300 ans que tu disparaîtras en écume. Mais dépêche-toi, car avant le lever du soleil, il faut que l'un de vous deux meure. Tue-le et reviens. Vois-tu cette raie rouge à l'horizon? Dans quelques minutes, le soleil paraîtra et tout sera fini pour toi. » Puis, poussant un profond soupir, elles s'enfoncèrent dans les vagues. La petite sirène écarta le rideau de la tente et elle vit la jeune femme endormie, la tête appuyée sur la poitrine du prince. Elle s'approcha d'eux, s'inclina et déposa un baiser sur le front de celui qu'elle avait tant aimé. Ensuite, elle tourna ses regards vers l'aurore, qui luisait de plus en plus, regarda alternativement le couteau tranchant et le prince qui prononçait en rêvant le nom de son épouse, leva l'arme d'une main tremblante et la lança loin dans les vagues. Là où tomba le couteau, des gouttes de sang semblèrent rejaillir de l'eau. La sirène jeta encore un regard sur le prince et se précipita dans la mer où elle sentit son corps se dissoudre en écume. En ce moment, le soleil sortit des flots. Ses rayons doux et bienfaisants tombaient sur l'écume froide et la petite sirène ne se sentait pas morte. Elle vit le soleil brillant, les nuages de pourpre, et au-dessus d'elle flottaient mille créatures transparentes et célestes. Leur voix formait une mélodie ravissante, mais si subtile que nulle oreille humaine ne pouvait l'entendre, comme nul œil humain ne pouvait voir ces créatures. L'enfant de la mer s'aperçut qu'elle avait un corps semblable au leur et qui se dégageait peu à peu de l'écume.
« Où suis-je ? »
demanda-t-elle avec une voix dont aucune musique ne peut donner l'idée.
« Chez les filles de l'air ?»
répondirent les autres.
« La sirène n'a point d'âme immortelle et elle ne peut en acquérir une que par l'amour d'un homme. Sa vie éternelle dépend d'un pouvoir étranger. Comme la sirène, les filles de l'air n'ont pas une âme immortelle, mais elles peuvent en gagner une par leurs bonnes actions. Nous volons dans les pays chauds où l'air pestilentiel tue les hommes pour y ramener la fraîcheur. Nous répandons dans l'atmosphère le parfum des fleurs. Partout où nous passons, nous apportons des secours et nous ramenons la santé. Lorsque nous avons fait le bien pendant 300 ans, nous recevons une âme immortelle. Afin de participer à l'éternelle félicité des hommes. Pauvre petite sirène, tu as fait de tout ton cœur les mêmes efforts que nous. Comme nous, tu as souffert et sortie victorieuse de tes épreuves, tu t'es élevée jusqu'au monde des esprits de l'air, où il ne dépend que de toi de gagner une âme immortelle par tes bonnes actions.
Et la petite sirène, élevant ses bras vers le ciel, versa des larmes pour la première fois. Les accents de la gaieté se firent entendre de nouveau sur le navire, mais elle vit le prince et sa belle épouse regarder fixement, avec mélancolie, l'écume bouillonnante, comme s'ils savaient qu'elle s'était précipitée dans les flots. Invisible, elle embrassa la femme du prince, jeta un sourire à l'époux, puis monta avec les autres enfants de l'air sur un nuage rose qui s'éleva dans le ciel.